Peu avant Noël 1988, que j'attendais fébrilement car le Père Noël, sous les traits de mes parents, devait m'apporter une NES avec Super Mario Bros., je passais un peu par hasard au rayon jouets du printemps et m'arrêtais un instant devant une NES qui d'habitude était enfermée dans une caisse en verre et qui, là, curieusement, était à disposition du public, reliée à une télé et avec un jeu à l'intérieur. Mon œil averti remarqua que d'autres cartouches étaient déballées, dont l'une portait le doux nom de The Goonies 2. Je n'avais pas vu le film, juste une bande-annonce à l'époque, et décidai alors d'enclencher la cartouche dans la machine. Au bout de 30 secondes, le vendeur apparut et sans mot dire me retira la manette des mains, éteignit la console et referma la caisse. Le geste de ce malotru ne freina pas pour autant mon désir d'aller plus loin dans ce jeu qui m'avait d'emblée séduit. Ce fut finalement mon frère aîné que je convainquis de réclamer le jeu pour Noël, et quelques semaines plus tard, je pus enfin m'adonner pleinement à ce superbe jeu que j'ai depuis refait maintes et maintes fois. The Goonies 2 est un jeu édité par Konami, sorti en 1987 sur Famicom au Japon et sur NES aux USA, et un an plus tard en Europe, mais n'a pas alors été traduit de l'anglais, comme l'intégralité des jeux NES d'alors. Un système de code permettait, à l'instar de Metroid ou de Kid Icarus, de reprendre sa partie là où on l'avait laissée. Il ne s'agit pas de l'adaptation d'un film, qui n'a d'ailleurs jamais été réalisé, mais de la séquelle du jeu de tableau The Goonies, sorti précédemment sur Famicom et MSX, ne pas confondre avec le The Goonies sur C64, traité dans un autre article. Dans ce jeu, vous incarnez Mickey, dont les six amis ont été capturés par les membres de la famille Fratelli, composé de mafieux plus proches du gros Tony des Simpsons que du Nino Shibeta d'Oz. Vous allez alors arpenter la gigantesque maison des Fratelli afin de les retrouver, bien évidemment. Ceci fait, il vous faudra encore trouver le cachot d'Annie, la sirène, capturée par la famille. Cette maison est pour le moins étrange car elle abrite en son sein une cave arctique peuplée de pingouins et d'ours blancs, des cavernes ornées de volcans en éruption où sévissent des Godzilla miniatures, un ravin surplombé d'un pont à haubans, etc. Pour vous aider dans votre mission, vous êtes doté au début d'un yo-yo. Celui-ci vous permet de vous débarrasser des différentes créatures croisées telles que des araignées, des serpents, des corbeaux et les frères Fratelli, voire de la mama en personne, qui, une fois à terre, laisse parfois derrière eux des cœurs, des clés, des bombes ou des cocktails Molotov. Tout ceci se déroule dans une vue 2D des plus classiques, avec son lot d'échelles et de plateformes mouvantes. Cependant, par rapport aux nombreux jeux de plateformes existants à l'époque, The Goonies 2 se démarque par son côté aventure. Très souvent, le joueur est amené à franchir une porte, et le jeu passe alors en une vue 3D à la Dungeon Master. Là, quatre possibilités s'offrent à vous. L'option Go permet de se déplacer vers une autre pièce. Hit fait apparaître un point que vous pouvez utiliser sur les murs, ce qui aura pour effet de dévoiler une clé, une caisse de bombes ou de cocktail Molotov, mais également sur les personnages, ce qui entraînera des réactions diverses. L'option Take permet de ramasser ce qui traîne sur le sol. Et enfin, avec Tools, il est possible d'utiliser les différents outils collectés. Dans un premier temps, on utilise généralement le marteau afin de révéler une autre porte, un passage dans le sol ou le plafond, un coffre renfermant un accessoire, un porte-clés, voire un cachot où se trouve prisonnier l'un des camarades de Mickey. Parfois, au détour d'une porte cachée, vous vous retrouvez face à un vieillard qui vous accueille dans une warp zone menant à une autre partie de la maison. Afin de se repérer dans cette vaste demeure, une carte est à votre disposition, ainsi qu'une sorte de GPS. Cependant, la carte indiquant le recto et le verso de la maison est un cauchemar pour celui qui n'a jamais été fichu de se repérer sur un plan. Le GPS, quant à lui, indique votre position ainsi que celle d'un Goonie prisonnier. Au rayon des armes et outils divers, on trouve le yo-yo, évoqué précédemment, auquel on peut ajouter un lance-pierre et un boomerang, celui-ci ayant la fâcheuse habitude de se faire subtiliser par certaines créatures. Il n'est pas nécessaire de récolter tous les outils éparpillés dans le jeu pour finir votre quête. Cependant, certains sont indispensables, comme les lunettes, qui font apparaître des objets cachés dans les salles, l'échelle ou la combinaison de plongée. Et oui, dans The Goonies 2, il vous arrive par moments de plonger sous la maison où vous remarquerez de petites statues de l'île de Pâques, clin d'œil à d'autres productions de Konami telles Gradius. Ceci dit, s'il est possible de terminer le jeu sans la totalité des outils, il est toujours agréable de posséder un casque pour se protéger des chutes de stalactites, de chaussures à ressort permettant d'atteindre des endroits inaccessibles si l'on est chaussé de vulgaires baskets, ou d'une chandelle permettant d'éclairer certaines pièces. Concernant la musique, le thème principal du jeu reprend la chanson « Goonies are good enough » de Cyndi Lauper. Par ailleurs, d'autres musiques méritent votre attention, notamment celle de la caverne arctique ou du niveau sous-marin, qui retranscrivent de manière fort judicieuse l'ambiance de ces passages. Le jeu n'est évidemment pas exempt de défauts. Ainsi, comme mentionné plus haut, la carte est d'une utilité toute relative et vous ne devrez donc compter que sur votre mémoire pour vous repérer dans la maison. La notice du jeu est quelque peu succincte et n'explique pas clairement le fonctionnement de certains outils. C'est ainsi que je suis resté bloqué au moins un mois dans ce jeu, car ni moi ni mon entourage n'avions compris le fonctionnement des lunettes. De même, on peut regretter de perdre le lance-pierre et le boomerang en cas de game over, ou de constater que les membres de la famille Fratelli ont été clonés. Passe encore que l'on retrouve le même personnage à différents endroits de la maison, étant donné qu'on ne peut que les étourdir et pas les tuer, mais quand on le retrouve en deux exemplaires dans le même tableau, on se dit qu'il y a de l'abus. De plus, l'un des personnages phares du film, Sinoc, est absent du jeu. Enfin, et ce n'est pas nécessairement un défaut, certains personnages croisés ne servent absolument à rien, sauf éventuellement à vous faire réfléchir pendant des heures à la signification cachée, mais inexistante, d'une phrase comme « I'm Eskimo », prononcée par un Eskimo. Voilà un titre sorti en France en même temps que Metroid, Punch-Out, The Legend of Zelda, Kid Icarus, et qui a sans doute souffert de cette rude concurrence. Pourtant, c'est un jeu riche, suffisamment long pour vous faire passer un bon moment devant votre NES, de préférence à Toire, un Noël 1988 chez votre grand-père.